Alors Stéphane, tu viens aujourd'hui nous parler, ou nous reparler, puisque j'en avais déjà parlé il y a longtemps, d'une série qui s'appelle Hundred Bullets chez Vertigo.
One Hundred Bullets.
Tu peux me la refaire
One Hundred Bullets.
La première traduction en français, ils avaient appelé ça À bout portant.
C'est pas mauvaise.
Et 100 balles, ils n'arrivaient pas à le faire en fait, ils trouvaient ça un peu ridicule. Une série comics qui va avoir marqué, qui aujourd'hui revient avec son 15e tome, donc qui doit être les épisodes 77 à 83, si mon souvenir est bon.
Encore ?
Oui, on est en retard en France. Hein. Et la réédition des deux premiers, puisque Urban relance donc toujours les rééditions des premiers tomes en même temps, ceux qui étaient épuisés depuis longtemps.
Ouais, bah c'est un peu étonnant, mais je vois pas comment ils ont goupillé leur truc, ils divisent les numéros américains en deux ou quoi ?
Bah écoute, non.
On en a 13, enfin l'édition américaine, il y en a 13.
Ah bah attends, je vais revérifier ça, mais je crois bien que c'est ça. Donc en tout cas, on repart, donc le concept d'Hundred Bullets, c'est quoi ?
Ah, ouais, Hundred Bullets, c'est en fait, si vous aimez le film noir, ces histoires un petit peu de climat glauque où la sueur, sexe, sang et violence sont entremêlés, ben effectivement vous avez frappé à la bonne porte. En fait, One Hundred Bullets repose sur un postulat un petit peu moral. Imaginez un agent, quelqu'un qui s'appelle l'agent Graves, qui vous tend une mallette avec un flingue et 100 balles. Et qui vous propose de vous venger. Vous avez été victime d'une grave injustice ou autre. Et bien à partir de là, il vous donne tous les éléments pour pouvoir vous venger. Un dossier avec toutes les informations, la biographie, toutes les saloperies qu'a pu faire la personne qui vous a foutu dans la panade. Et un flingue intraçable que aucune force de police ou autre ne pourra retrouver. Et à partir de là, ben c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous venger ou est-ce que vous préférez repartir de l'avant. Sur les premiers épisodes, on est un petit peu dans cette espèce de dilemme de morale. Mais on s'aperçoit petit à petit que, au fur et à mesure, finalement, ce n'est qu'une partie du puzzle, qu'une partie d'une tapisserie qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et que chacun de, finalement, des numéros va petit à petit étoffer, approfondir, complexifier. Et en montrant des personnages, des situations qui sont avec des personnes qui ont une mentalité qui n'est quand même pas blanc-blanc. On est toujours dans des nuances de gris et qui vont du gris très foncé au gris un peu moins foncé, voire même noir pour certains personnages.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on prend les premiers numéros, toutes les histoires semblent indépendantes. On a l'impression qu'on pourrait lire les éléments dans le désordre, que ce sont d'étranges vies qui n'ont pas forcément de lien, parce que Graves est très en retrait, il vient au départ, il repart, mais on ne sait pas exactement pourquoi il fait ça, pourquoi il va voir ces gens, et on ne se rend pas compte si les gens ont une importance ou pas. Au départ, on a l'impression que ce ne sont que des histoires indépendantes et qu'on ne reverra jamais les personnages. En fait, cette idée qui apparaît dans surtout les 2-3 premiers tomes va vite s'effacer quand on va commencer à revoir les personnages et à comprendre qu'il y a un plan plus large.
Oui, je pense que c'est à partir vers le 20e numéro, on commence à avoir une vision du côté beaucoup plus large qui se passe. Et en fait, on replonge même dans les méandres d'une organisation qui remonte au 16e siècle.
On découvre que Graves n'est pas forcément un bienfaiteur.
Ah non, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les personnages étaient tous troubles. Et c'est vrai que Graves a sa part de sang sur la conscience.
Après, il y a 2-3 personnages qu'on voit apparaître dedans. Et qui, on ne sait pas effectivement pourquoi ils sont là. Ou alors, on se rend peut-être compte qu'il a été décidé à un moment qu'il n'avait pas l'envergure pour intervenir de manière plus large dans le plan qui est préparé. D'ailleurs, certains personnages ne survivent pas à leurs aventures.
Tout
et
fait.
Les héros ne sont pas forcément ceux qui gagnent à la fin de chaque histoire.
Mais c'est justement ce qui est intéressant. C'est qu'on est effectivement, on a toujours cette question de morale qui est sous-jacente. Mais après, ce cadeau, si on peut appeler ça un cadeau, sert aussi de révélateur aux personnages qui obtiennent cette faveur. C'est là qu'on voit quel est leur vrai moi, quelle est leur vraie personnalité. S'ils ont la force de finalement abandonner, de ne pas pas utiliser ce cadeau ou finalement d'y succomber. Mais surtout, c'est aussi une façon, petit à petit, on le voit, de servir d'être des pions dans une partie d'échecs à beaucoup plus grande échelle pour laquelle l'agent de grève veut se venger de ses anciens employeurs. Alors, on va pas forcément rentrer un peu plus dans l'histoire parce que c'est justement le plaisir aussi qu'il y a de rentrer dedans, de lire tous les épisodes, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y est rentré, c'est quelquefois dur d'en sortir. Voilà. Alors, il y a peut-être des arcs un peu plus faibles que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quand même un sacré chef-d'œuvre.
Ben moi, c'est vrai que j'avais pris la série à l'époque, après la lecture du premier TPB, qui n'était pas forcément évident. Hein. Il faut un certain niveau d'anglais pour le lire en VO.
Oui, surtout qu'en plus, Azzarello utilise pas mal d'expressions argotiques, où il y a beaucoup de sous-entendus.
Les trois premiers sont limite incompréhensibles. Ouf. En anglais.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut dire que les traducteurs ont fait en français, ont fait du bon boulot parce que c'était quand même pas évident de redonner, enfin de retranscrire les tonalités.
Après, moi, c'est vrai que je m'étais un peu arrêté en VO à partir du numéro 50 où on avait ces histoires qui commençaient un peu à traîner, où finalement on n'avait plus surtout de valises. Et c'est vrai qu'il manquait quelque chose dans ces éléments, et on avait l'impression que le plan général n'avançait pas. Là, on en arrive aujourd'hui en France, donc ce 15e tome français, donc qui, j'ai vérifié, correspond au 11e TPB américain.
D'accord, donc c'est en fait le numéro, ça va correspondre.
Ouais, l'épisode 76 à 83.
Ouais. C'est un peu étonnant que comment ils ont fait leur découpage pour qu'on récupère
Ils ont dû effectivement découper les TPB les plus gros en fonction des arcs. Hein. Voilà, après. C'est pas effectivement forcément grave, hein, parce qu'il y a des arcs et des TPB qui contenaient deux arcs, donc ils préféraient faire deux TPB de 4 à un TPB
de
8.
Ouais, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, quand tu regardes, il y avait en plus toute une série de jeux de mots.
Sur les titres.
Sur les titres, et dans les TPB américains, pour ça, c'était assez fabuleux parce qu'à chaque fois, pour
à
chaque numéro.
Une exception près, je crois.
On sait ?
Il y a une exception près où Azzarello, on lui a changé son titre au dernier moment.
Le 3.
Ouais, et le jeu de mots qu'il avait prévu n'y était pas.
En fait, le 3, il devait s'appeler normalement, pour chaque numéro, en fait, il y a une allusion au numéro du comics. Donc, du TPB, par exemple, le premier s'appelle First Shot, Last Call. Deuxième, Split Second Chance, et ainsi de suite. Et en fait, sauf pour le 3. Parce qu'effectivement, il devait s'appeler The Charm. Et c'était en fait une référence à une expression américaine qui s'appelle Third Times The Charm. Cet arc est beaucoup plus connu sous le nom de Hang Up on the Hang Low. Et qui a en fait été le nom sur lequel il avait été référencé pour les Eisner Awards. Et donc en fait, il avait été il avait été nommé comme ça et finalement, c'est resté.
Tous les autres, effectivement, il y a une référence plus ou moins cachée au titre. Alors, je ne sais pas quel est le titre anglais de ce tome-là.
Pour lequel
donc le 11e.
Alors le 11e s'appelait Once Upon a Crime. Ah, sympa en plus comme titre. Hein. Toutes les références côté un petit peu Once Upon a Time et voilà. Once Upon a Time in America.
Voilà. Et là effectivement il s'appelle Le Sens de la Chute. Après c'est vrai que tous les jeux de mots ne sont pas forcément traduisibles comme on le disait. En tout cas l'important c'est qu'effectivement à arriver dans un moment où la série s'approche d'un dénouement puisqu'il reste deux TPB à sortir et la série prend une accélération et c'est vrai que c'est très différent de parler d'Andred Bullets à quelqu'un qui va lire ce tome 15 de le lire à dire à quelqu'un qui va lire les tomes 1 et 2 qui sont réédités.
Le seul problème c'est que je vois mal comment on peut faire lire le tome 15 dans une série à quelqu'un qui n'a jamais lu les premiers numéros, surtout sur une série comme ça.
C'est pour ça que
les mecs ils vont rien piger quoi.
Le problème c'est que Panini effectivement n'avait pas de réassort et que du coup c'était impossible aujourd'hui de se mettre à Andred Bullets.
Oui, puis comme dit Panini n'avait plus les droits, c'était délicat pour lui quoi.
Donc en fait Urban continue la série dans le format souple qu'avait Panini.
D'accord.
Pour respecter effectivement ceux qui avaient commencé la série chez Panini, mais ils entament en parallèle une réédition dans un format qui va leur être propre, qui va être un format cette fois-ci en hardcover.
D'accord.
Et où ils vont donc pouvoir ainsi rééditer toute la série.
Bon, ça peut être une bonne solution. Voilà. C'est vrai que ça va dire un respect du lecteur.
Et c'est la politique qu'ils ont pris sur tous les titres Vertigo, c'est-à-dire qu'en même temps que ces éléments. Ils sortent donc deux tomes qui sont donc le premier qui est appelé Première Salve et le second qui est appelé
Last Call. Ouais, c'est normal. Voilà. Bon, hein, bon
et le second qui est appelé Le Marchand de Glace. Quand on se souvient des épisodes, voilà, on sait pourquoi.
Donc, mais c'est
deux tomes à 17,50 donc en format cartonné. donc un format plus définitif, puisque c'est aussi, eh bien, évidemment, la volonté marquée dans ces cas-là qu'affiche clairement les termes.
Alors, effectivement, il faut dire aussi une petite chose, c'est que quand même, Azzarello est un auteur assez prolifique, qui a une façon bien lui de structurer ses histoires. Donc c'est vrai que c'est toujours, il y a ce côté un peu puzzle, une façon d'amener où le lecteur, où il ne s'attend pas. Et c'est aussi un chef-d'œuvre graphique d'Eduardo Risso.
Ouais, qui fait tous les épisodes sans exception.
Sauf, je crois qu'il y en a un ou deux. Mais au moins sauf le 23.
Le 23 qui est
sur... Le 26, excuse-moi.
Le 26, voilà, où il y a plein de dessinateurs invités, si je me souviens.
Ouais, bah t'as comme... Enfin, t'as Eduardo Risso qui fait toutes les pages un petit peu de... Une grosse, très grosse partie des pages. T'as Paul Pop pour une page. T'as Joe Jusco pour une autre page. Mark Chiarello.
Jim Lee.
Liber Gemmo. Dave Gibbons. Tim Bradstreet. Jordi Bennett. Frank Miller. Chez Jones.
C'était une technique qu'on utilisait pas mal chez Vertigo. Ça a été fait notamment à l'époque sur Transmétropolitane, mais là sur des numéros spéciaux en dehors de la série.
Ouais.
Là, c'était intégré à un épisode.
Et ça fonctionnait, mais finalement, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Mais Eduardo Risso est un gars qui est un grand maître du noir et blanc. À la limite, enfin, même s'il faut quand même reconnaître que c'est F.C. Watts qui a fait
Dave Johnson, les couvertures.
Oui, Grant Goleach et Patricia Melville qui ont fait les couleurs. Et c'est vrai que c'est Deb Johnson qui a fait les couvertures. Eduardo Risso est quelqu'un qui a un style, enfin, qui est très stylisé. Un espèce de mélange de lignes claires et d'Alex Todd pour son utilisation des masses noires. Et il joue beaucoup sur ces équilibres-là. Alors ça donne des ambiances effectivement magnifiques pour des polars. Parce que dès qu'on est sur des scènes un petit peu d'ambiance intérieure, de bar et tout, ça donne une ambiance un peu glauque. On entendrait presque en arrière-fond le piano au fond du bar avec le pianiste fatigué qui commence à en avoir marre de sortir les mêmes rengaines. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Et à la limite, ça serait quelque chose qui mériterait de sortir qu'en noir et blanc. Et je pense que ça, finalement, ça pourrait être même encore plus fort.
Je viens de revérifier tout simplement par rapport à ce qu'on disait sur l'édition d'Urban. Donc l'édition en cours se terminera au numéro 18. Par contre, la réédition que fait Urban s'arrêtera au numéro 15. Donc il y aura quand même un album qui sera redécoupé en deux.
Oui, parce qu'en fait, je regardais la production, le volume, le 1. Ils ont publié les 5 premiers, le TPB. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, il y avait une histoire courte qui avait été rajoutée sur le premier TPB.
Voilà, après.
Et en fait, ils ont sorti que le numéro. Que les, donc, les 5 premiers numéros en France, le 6-10. Et déjà, on commence à prendre le second, en écart, puisque le deuxième, aux États-Unis, allait du 6 au 14. Donc,
Voilà, donc là, de toute façon, en tout cas, au niveau de l'édition qui est faite, là, le deuxième tome de Panini, c'est effectivement bien les numéros 8 à 14. Donc, on est bien. Au même nombre de pages au final. Voilà, il y a 7 épisodes complets dans chaque.
Ah, sympa. Il y a des plus. Mais même les titres français sont vraiment sympathiques.
Voilà. En tout cas, c'est une série qui est une série d'ambiance, qui est une série à tiroir. C'est vrai qu'au départ, elle a le mérite de pouvoir être lue par n'importe qui parce que ce sont des histoires qui finalement paraissent des histoires simples, des tranches de vie. Et au fur et à mesure, on se retrouve embarqué dans un plan machiavélique avec ces factions qui s'affrontent. Et je pense que beaucoup de gens qui ont pu commencer comme nous au tout premier se seraient pas forcément lancés dans un scénario de grande conspiration comme ce qu'il y avait derrière. Et qu'on savait pas.
C'est vrai qu'il a été complètement. C'est vrai qu'Elzarello nous a complètement surpris. Mais c'est vrai qu'il avait dit lui-même que c'était quelque chose qui était construit, qui avait un début, une fin, en temps de numéro, avec le clin d'œil de toujours finir sans balles, sans numéro, quoi. Mais c'est clair qu'il y a une construction, c'est quelque chose de super intéressant à en lire. Si vous aimez les bons polars et tout, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que conseiller.
Voilà, c'est clairement une série qui restera, à mon avis, dans les grandes séries de Vertigo. C'est-à-dire que évidemment, il restera toujours V pour Vendetta, Watchmen et,
bah, et Sandman. Sandman. Tu peux rajouter
mais
Sandman.
Cette série forcément restera dans celle qu'il faut considérer et continuer à avoir dans ce cadre-là.
Voilà. Oui, puis c'est vrai que on pouvait franchement faire tenir une série comme ça sur 100 numéros, c'était pas quelque chose d'évident, d'un sacré pari.
C'est vrai qu'il y a, du challenge qui a été en plus très bien rempli parce que au départ on se demande où ils veulent aller et on se rend compte que finalement eh bien ça marche et on ne peut que s'en féliciter du coup. C'est quand même une série qui se structure même si on a, on s'en rend compte à un moment. Un peu une longueur dans le milieu de la série parce que
il y a un petit trou, un petit passage à vide.
Il prend son temps, je pense qu'il n'est pas forcément à cette époque-là dans l'idée d'arrêter le titre. Et il se dit, je verrai plus tard ce que je vais faire. À la fin, eh bien, évidemment, il sait ce qu'il veut en faire. Et on ne peut qu'apprécier pour tous ceux qui sont en train de lire la version française, donc qui vont continuer avec ce 15e tome. On peut d'ores et déjà leur dire que la série va arriver vers un dénouement évidemment et que là on arrive au moment où c'est vraiment préparé. On est dans une série qui est à un tournant dans sa version première et pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion et qui regrettent de ne pas avoir pu lire Unread Bullets, c'est vraiment le moment de se lancer dedans. Donc on répète, hein, donc sorti donc cette semaine des rééditions des tomes 1 et 2 pour 17,50€, nu donc le tome 15 de la version commencée par
avec un prix raisonnable.
15€ je crois pour la version souple et 17,50€ pour les deux, les cartonnés.